Spéciale fête de fin d'année, en sol majeur vous propose cette rediffusion.
En sol majeur,
Yasmine Chouaki.
En sol majeur vaudouisé, un week-end tout entier, c'est pas grave. C'est grâce à l'Institut français de Port-au-Prince que nous avons pu rencontrer en mai dernier le trésor national haïtien. Franck Étienne hier, Franck Étienne aujourd'hui. Artiste total, auteur de La spirale littéraire pour toujours. Il nous recevait dans sa maison musée, une après-midi d'orage, dans cet Haïti qui est un peu le pays des chiens qui aboient. Hier, Franck Étienne, 80 ans, nous racontait son quotidien sous Duvalier en nous donnant une petite leçon de marronnage culturel. Il disait aussi que dans 4 ans, il ne serait plus de ce monde. Il nous confiait sa conversation avec Dieu, c'est-à-dire avec Loa, comme on dit là-bas. Et puis son amour du féminin dans un texte encore inédit, Corps de douleur, un texte qui pourrait se murmurer comme ça.
Les thèses freudiennes, j'en ai la certitude, frôlent souvent la bêtise du mâle présomptueux. Les muqueuses vaginales hyper colorées, avec les grandes et petites lèvres, avec les plis et replis, avec la majesté du clitoris, avec la rougeoyance bleu-rose-mauve du canal charnu, demeure un chef-d'œuvre symbolisant la perfection esthétique du génie divin.
Oh, comme l'origine du monde.
Franck Étienne, je peux vous appeler chérie, hein, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle en Haïti, sans qu'il y ait d'équivoque. Hein.
Oui, 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 chérie, et c'est toujours comme ça, ça vient.
Ça peut aller jusqu'à mon amour.
Spontanément, oui, oui.
Vous écrivez pour donner à entendre ce que vous appelez le mouvement de la vie dans votre écriture.
Hein. C'est la spirale.
C'est la spirale. Comment faire pour le rendre, ce mouvement de la vie? Comme vous dites,
question,
hein.
Quelle question clé. Eh bien, c'est toujours reculer les frontières, parce que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit au niveau de la création, il y a tellement de choses, de tabous. Si on doit voler 5 ou 6 mètres, il faut voler 20 mètres. Il faut aller au-delà, toujours aller au-delà.
Il y a le téléphone dans votre maison théâtre, mais vous ne bougez pas. J'ai l'impression que la spirale, comme vous l'appelez, fait un certain parcours, hein, quand vous écrivez. C'est-à-dire qu'elle part du monde, elle passe par la terre, elle frôle votre île, elle traverse aussi votre âme, votre sexe, pour produire votre texte. Est-ce que vous diriez que c'est ça le parcours ?
Je dirais oui, ça, tu as bien trouvé, Yasmine, c'est le seul parcours, mais avec ceci, quand on parle de parcours, on doit parler aussi de l'origine. L'origine de la spirale, elle est scientifique. La spirale est dans la nature, comme la dialectique est dans la nature. Héraclite n'a pas inventé la dialectique. Quand il a dit, on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve, c'est le mouvement infini de la vie, donc c'est la dialectique. Karl Marx n'a pas inventé la dialectique aussi bien que Hegel. La dialectique est dans la nature. Tu prends une graine qui tombe dans le sol. Si les conditions climatiques sont favorables, on va voir la mort de la graine. La graine va pourrir. La graine, c'est la thèse. Le pourrissement de la graine, c'est l'antithèse. Et la plante qui va germer, mais je préfère le verbe germiner. Mm-hmm. La plante qui va germiner, c'est la synthèse. Et cette plante, elle va avoir une programmation. Et cette programmation est dialectique. D'abord le tronc, les feuilles, les branches, l'efflorescence, les fleurs et puis si possible les fruits. On retrouve la même chose dans la spirale. La spirale est dialectique et la spirale, c'est le mouvement des galaxies. Toutes les galaxies ont des tentacules, ont des bras. en forme de spirale. Les cyclones ont un mouvement spirale. Les séismes ont un mouvement spirale. Les ondes gravitationnelles des particules élémentaires sont en spirale. La spirale est la structure absolue que l'on retrouve partout. Donc c'est à partir de la spirale que je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser cette structure dans l'écriture et dans la peinture, l'appliquer dans l'art, alors que ce qui était plus facile, c'était de copier le quotidien. Et à ce moment-là, on n'est pas dans l'art, on est dans la reproduction.
On est dans la 2D, vous êtes dans la 3D.
Oui, oui.
Quelque chose comme ça?
Peut-être même, disons, beaucoup plus que ça, pluridimensionnel.
Oui. Donc votre écriture, elle ne sert pas le pouvoir, elle n'a jamais servi le pouvoir, mais en même temps, Franck Etienne, cette écriture n'empêche pas malgré tout le chaos et la terrible misère d'Haïti. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vain dans cette spirale littéraire que vous défendez?
Je vais te reprendre. Le chaos, il est partout. Et le chaos symbolise la vie. Vous savez ce qui n'est pas chaotique? C'est la mort, parce qu'elle est plate. Le cas d'Haïti est particulier. Le malheur d'Haïti vient du fait que nous n'étions pas. Ce que je dis là est très fort. Et je souhaite que mes compatriotes haïtiens ou quelques nègres fanatiques d'Haïti ne se révoltent pas contre la parole de Franck Etienne pour dire que Franck Etienne n'est pas haïtien, n'est pas patriote. Non, je suis un fou d'Haïti. Mais je reconnais, à travers cette succession de ratages, que nous n'étions pas prêts pour ce grand bond vers l'inconnu, c'est-à-dire l'indépendance totale.
Le rêve haïtien est mort en 1804 ?
Le rêve haïtien est mort en 1806, pas en 1804.
À la mort de Dessalines.
À la mort de Dessalines. Dessalines a été assassiné, non seulement par les grands généraux qui étaient contre le partage, parce que Dessalines voulait une répartition équitable des terres conquises. La grande bourgeoisie n'a pas voulu. Mais cette grande bourgeoisie a été constituée à la fois de mulâtres et de noirs privilégiés. Mais beaucoup d'Haïtiens ne le savent pas. Quand Dessalines a été assassiné, fusillé, au Pont Rouge à Port-au-Prince, son cadavre a été déchiqueté. Ses orteils, ses doigts, des parties de son corps ont été traînés dans les rues.
Par qui?
Par le petit peuple. Et à partir de ce moment, on a eu la balkanisation d'Haïti. Christophe a pris le nord, Alexandre Pétion a pris l'ouest, et on a eu Rigaud dans le sud. Depuis ce moment-là, ce rêve de l'union fait la force est un vœu pieux. La division, je l'ai dit, c'est le virus mortifère qui empoisonne le corps social haïtien.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Je crains qu'il ne soit trop tard dans le contexte de la mondialisation, quand nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous sommes gérés par l'étranger, nous sommes gérés par les ONG, nous sommes gérés par les institutions internationales, nous sommes gérés par les puissances qui se disent amis d'Haïti.
Donc c'est terrible, vous êtes en train de dire que le sort d'Haïti est scellé.
Je le crains.
Vous en fichez, dans 4 ans vous n'êtes plus là?
Non, tu es méchant.
Vous allez nous abandonner.
Non, tu es méchant.
À notre pauvre sort.
Non, tu es méchant. Écoutez, tout mon travail de militant, parce que j'ai été membre du Parti communiste pendant 5 ans, à l'époque où j'avais 27 ans à 32 ans. Mais j'ai découvert la perfidie, même à l'intérieur du Parti communiste, où le secrétaire général livrait des camarades à François Duvalier. Il y a des paysans et de jeunes camarades, poètes, qui sont morts, livrés par le secrétaire général du Parti communiste. Et dans mes œuvres créoles, j'ai toujours pris fait et cause pour mon peuple. Et mon peuple le sait.
Oui, mais c'est juste que, comme vous préparez votre sortie, on aimerait que vous le fassiez en nous laissant un testament.
Vous ne savez, je sens, je pressens, je flaire, pour ne pas dire que j'ai quelque part la certitude que le monde marche mal aussi. Et que quand les grandes puissances, en créole on les appelle les autobrés, c'est-à-dire ce sont les grands caciques, quand ils auront le sifflement des missiles, ou encore le sifflement de quelques cataclysmes, je ne sais pas, imprévisibles, ils nous laisseront la paix, parce que trop souvent, ils sont toujours là pour court-circuiter les mouvements populaires en Haïti. Tous les mouvements révolutionnaires ont été court-circuités par l'étranger. Ce n'est pas nous qui avons renversé Duvalier. Bien sûr, nous avons acculé Duvalier. Mais le mouvement a été court-circuité et ce sont les Américains qui sont venus qui ont demandé à Duvalier de partir. Ils l'ont fait aussi avec Aristide. Nous n'avons jamais eu la possibilité de gérer notre propre histoire.
François-Dominique Toussaint.
Général Toussaint Louverture.
Non, vous avez été dégradé par l'armée française. Et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Et vous, qui êtes-vous, monsieur ?
Étienne Denis Pasquier. J'ai été chargé personnellement par Bonaparte, premier consul, d'établir un rapport sur votre conduite à Saint-Domingue.
Le général Caffarelli a déjà essayé. Je ne parlerai qu'à Bonaparte, en personne.
Je vous le dis. Je le représente personnellement. Me voir moi, c'est comme le voir lui.
Mais tu n'es qu'un petit fonctionnaire, tout droit sorti de l'école.
Vous parlez à un représentant du consulat.
Et toi, un général de la République. Adieu, monsieur.
Comment est-ce que vous avez découvert, Franck Étienne, que vous étiez comédien ?
J'étais comédien très jeune. Je me tenais souvent devant un miroir. À l'époque, j'avais 6 ou 7 ans. Et je faisais de la grimace à moi-même pour dire « Petit blanc manant, qu'est-ce que tu fais là ?» Et ça me rappelle qu'à l'âge de 10 ans, à la chute d'un gouvernement géré par un certain Élie Lescot, j'écris une petite scénette qui s'appelle « La chute de Lescot » que j'ai jouée avec des camarades de mon âge, 10, 11, 12 ans. J'avais 10 ans et je ne savais pas que j'allais devenir plus tard un dramaturge reconnu parce que si je suis reconnu, partout où je passe ici, en Haïti, dans les provinces, dans les coins les plus reculés, c'est surtout à cause de mon théâtre. Ce n'est pas ma peinture qui m'a donné la célébrité. Ma peinture me donne à manger. Ce sont les gens qui viennent acheter les tableaux. Mais je parle de mon peuple. Je parle des gens les plus humbles qui me reconnaissent et qui sont d'une, appelle-t-on ça, obséquiosité. Mm-hmm. Quand ils voient Franck Étienne, c'est le patron, c'est le...
Vous aimez ça, hein ?
Oui, c'est le trésor national vivant. C'est à cause de mon théâtre. Ce n'est pas à cause de mes livres. Mes livres ne sont pas lus. Mes livres ne sont pas lus même par les gens lettrés. Ils disent que Franck Étienne les fait chier avec cette écriture.
Mais c'est vrai, vous donnez du boulot. Hein. Qui est Fouki Foura ?
Fouki Foura, c'est Franck Étienne. C'est le fou. C'est un homme de théâtre et incurable.
C'est le personnage dont on parle.
Ah, mais Franck Étienne aussi.
Oui,
oui. Moi, Fouki Foura. Je voyage au mitin des ténèbres. Je foutralingue, je brinzingue, je blinguedingue, je calbrindingue, je décalambrindingue, j'aristocratise la gauche, je démocratise la droite, je déphalocratise le pouvoir et je prophétise la fête éclatante et sublime au déboulé du sang à travers la zinglinderie nocturne. Je bouline, je débouline, de bim en bim, jusqu'au fond de l'abîme. Je m'embabilonne de boum en boum, de tchouboum en tchouboum, jusqu'au fond du katchouboumbé. Et puis je renais. Je reviens escalader l'air au pic du pouvoir. Je suis au sommet de la gloire. J'ai défloré la vie dans le lit du pouvoir. Moi, Fouki Foura. Je suis le roi de la scène, je suis le roi du plateau, je suis le roi.
Fouki Foura, donc un homme de théâtre, Franck Étienne, qui, pour échapper à une seconde arrestation, qui pourrait lui être fatale, se retire dans une certaine solitude profonde et se met à jouer pour lui son propre théâtre.
Pour ne pas crever sa propre vie, sa propre aventure, pour ne pas crever. C'est le fou.
Oui, cet illuminé qui joue l'illuminé, son propre rôle pour lui-même, oui. C'est aussi le lot de chaque haïtien condamné un petit peu au monologue intérieur, non ?
Oh oui, oui. C'est une des spécificités qui m'interpelle le plus dans l'acte de créer, le monologue intérieur et la sous-conversation. Bon, Beckett était très fort là-dedans, Samuel Beckett, mais je crois que sur le plan même du quotidien, sur le plan du vécu, on n'échappe pas à ce vieux disque qui est au fond de nous. Pendant que tu es là, tu mènes l'entrevue, tu es déjà à Paris dans 3 jours. Est-ce que je vais retrouver le chien que j'ai laissé? Est-ce qu'on lui a donné à manger?
J'ouvre les tiroirs intérieurs. Hein, vous aussi, intérieur, hein, qu'est-ce que ça, vous vous dites, vous, là, en même temps, là?
Bien sûr.
Pendant l'entretien?
Non, moi, moins que toi.
Pourquoi?
Non, parce que là, je crois que quand on donne une interview, on est comme un accusé. Tu me fouilles. Je suis un tribunal, mais bien sûr, un tribunal suprême.
L'écoute, c'est autre chose,
tu m'écoutes,
non ?
Mais il y a la sous-conversation, il y a le monologue intérieur, on n'échappe pas.
Tu ne vas pas me la faire, c'est pas la peine de me séduire comme ça. Tu es parti par là, mais je te vois revenir de l'autre côté. C'est un petit théâtre intérieur et il y a aussi des tiroirs linguistiques qui sont en jeu,
oui,
surtout
oui.
En vous. Est-ce que c'est une jouissance comme ça pour vous sous-texte
Totalement.
Dès que je dis jouissance, ça y est, Franck Etienne.
Non, c'est la jubilation.
À la fête.
C'est la jubilation.
Il y a la jouissance du créole aussi.
Oui, oui. Je dis la jouissance du langage parce que moi, je ne fais pas de différence entre écrit en français et écrit en créole. C'est-à-dire, il y a une musique, Franck Etienne, cette musique est faite de la rencontre du français et du créole.
En 2014, a été créée l'Académie du créole haïtien, et je crois savoir que vous n'avez pas vraiment applaudi cette création.
Bon, et je n'ai pas applaudi parce que je n'ai pas aimé la dénomination, c'est ça ?
Mm-hmm.
Je n'ai pas aimé Académie créole. Le créole est parlé en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à l'île de la Réunion et dans l'océan Indien. Pourquoi ne pas créer une académie haïtienne? Parce que cessons d'appeler la langue que parle le peuple haïtien créole. Le français parle le français, l'espagnol parle l'espagnol, l'haïtien parle l'haïtien. Le martiniquais parlerait le martiniquais parce qu'il y a des différences. Au niveau structurel.
Et puis il y a des connotations quand
on
dit.
Il y a des connotations, bien sûr.
Oui.
Donc pourquoi ne pas fonder une académie haïtienne et là-dedans on aurait des projets d'encyclopédie haïtienne, de grammaire haïtienne, c'est ça.
Voilà. Elle n'a pas encore un statut de langue au même titre que le français dans la tête des décideurs de cette
c'est
académie.
Ça, dans la tête des décideurs, c'est bien ça.
Une petite obsession en sol majeur pour ces voix vaudou terrestrement incarnées par Choukbois Libété. On adore en sol majeur. Ça cogne contre le cœur de Franck Etienne qui remet le couvert donc dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Franck Etienne, que nous savourons en sol majeur depuis hier, est donc l'enfant de plusieurs chaos. Biologique, politique, écologique et linguistique. Ce Chabin, né bâtard, aura vécu la tête hors de l'eau, bravant tout ce qu'on peut braver en Haïti. Misère, dictature, enfermement, tremblement de terre et de mer. Comment voulez-vous que Franck Étienne ait la langue littéraire dans sa poche ? À propos de son île, il parle aujourd'hui de ratage total, de ratage historique. Alors les Haïtiens, je ne sais pas, mais Dessalines et l'ouverture sont en train de se retourner peut-être dans leur tombe. Dernière séquence dans sa maison de Port-au-Prince, car nous n'avons pas fureté dans son jardin, où paraît-il ce diable d'homme a écrit dans un angle de verdure cette phrase qui résume toute sa pensée. « S'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute. » Que ta chute devienne ton cheval pour continuer le voyage.
T'es comme talisman.
Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont protégé dans votre vie?
Ce qui est drôle, avant la lettre, c'est un ouvrage qui paraît assez banal. C'est Les Trois Mousquetaires, que j'ai lu et relu plusieurs fois à l'époque. J'avais à peine 9 ans, 10 ans.
Vous n'étiez pas si délinquant que ça, alors ?
Non, j'étais dans la délinquance, mais j'ai toujours été friand, n'est-ce pas, de... Tu te rappelles, j'ai dit que j'avais un compte à régler avec la langue française. J'avais à peine 6 ans, 5 ans. Et il y avait Les Trois Mousquetaires et puis certains extraits de la Bible. Il y avait un pasteur dans le quartier et aussi en même temps un prêtre. C'est le melting pot, encore la spirale, le métissage. C'est le même moine de Fouquet qui m'avait appris la phrase « Papa, j'aimerais avoir une petite maison ». Il m'a passé la Bible. Et jusqu'à présent, je lis la Bible pas comme religieux. Je ne suis pas religieux. Je respecte bien sûr les icônes religieuses. Je ne vais pas cracher sur une statue de Notre-Dame de Lourdes, aussi bien que sur une statue de Notre-Dame de l'Altagrâce. Vous savez pourquoi ?
Dites-moi.
C'est parce que quand je suis en face d'une statue de Notre-Dame d'Altagrâce ou bien de Saint-Louis, je suis en face... Non pas d'une pierre maintenant, je suis en face d'un objet sacré qui est devenu un accumulateur d'énergie. C'est une batterie. Tu t'imagines combien de millions et de milliards de gens qui sont passés devant Notre-Dame de Lourdes. Celle-là pour demander un enfant, je veux avoir un enfant. Celle-là pour gagner à la loterie. Celui-là pour avoir, je ne sais pas, en Haïti, un visa américain pour aller aux États-Unis. C'est des milliards de gens qui ont pleuré. Donc... Comme tout est interconnecté physiquement, la science physique moderne l'a montré. Donc il y a un transfert, il y a de l'énergie qui est allée habiter cette pierre. Et on n'est plus en présence d'une pierre, on est en présence d'un accumulateur d'énergie.
Je remarque derrière vous, dans votre bibliothèque, presque, enfin, beaucoup de livres, mais ce sont les livres de Franck Étienne, comme des talismans peut-être. Hein. Et j'imagine que dans la maison des Haïtiens, que nous croisons comme ça depuis notre voyage ici, il y a des bibles. En tout cas, il y a des icônes, des figures iconiques. Le nom de Jésus qui est tagué sur bon nombre de murs ici à Port-au-Prince. Est-ce que vous êtes inquiet de la religiosité des Haïtiens ? Est-ce que vous êtes dérangé par ça, Franck Étienne ?
Je ne suis dérangé que par certaines sectes qui font un travail de sape des bases culturelles haïtiennes, c'est-à-dire... Et là, il y a de la politique derrière. C'est-à-dire, c'est surtout des sectes qui sont soutenues par des institutions étrangères et par des gouvernements étrangers. Par exemple, le protestantisme. Savez-vous qu'il y a plus de 10 000 églises protestantes en Haïti ? Et au niveau même des institutions, elles doivent être une douzaine. Il y a les baptistes, les pentecôtistes, les adventistes du septième jour.
Dirigés par quel pays ?
Ah non, d'abord les États-Unis. Mais je ne suis pas anti-religieux.
Et pas inquiet non plus de cette extrême religiosité qu'on sent, hein, vraiment frémir comme ça.
Non, je ne suis pas inquiet. Je suis plutôt inquiet de cette conscience citoyenne qui n'est pas présente chez nous. D'abord, c'est quoi un citoyen ? Un citoyen, c'est quelqu'un qui est d'un pays, d'un milieu, mais qui a des droits, aussi bien que des devoirs. La majeure partie des Haïtiens n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas l'énergie électrique, Ils n'ont pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Ils ne sont pas des citoyens.
Il y a vraiment énormément d'écoles. Quand on se promène, je disais.
La majeure partie de ces écoles s'appellent des écoles Borlette.
Alors voilà, vous allez nous expliquer, parce qu'on se disait, c'est un pays d'écoliers, Haïti.
J'ai les larmes aux yeux quand je les vois le matin, bien vêtus.
Chaque école a son uniforme.
Chaque école a son uniforme. Et je pense à ce moment-là, à l'effort de certains parents pauvres pour envoyer ses enfants à l'école, parce que nous croyons dans l'investissement éducatif. Mais la majeure partie des écoles, on donne un enseignement au rabais. Le directeur parfois est un mercantile et des professeurs incompétents. Je respecte la minorité de professeurs qui sont bien préparés, mais le cas n'est pas fréquent, n'est pas courant. Il y a un délabrement général en Haïti, délabrement institutionnel au niveau de la justice, délabrement au niveau d'abord de la famille. La famille haïtienne est disloquée. Déjà, les mâles, je reviens à ce problème, les mâles abandonnent toujours les femmes avec 2-3 enfants. Il est très courant de trouver une femme haïtienne ayant 5 enfants de 5 pères différents. Hein.
On fait beaucoup l'amour hein, en Haïti.
Malheureusement, dans certains cas, ça devient une sorte de porte de sortie pour fuir la misère, pour contourner plutôt la misère. Et c'est là encore la douleur des femmes.
Imaginons un Big Bang numéro 2. Vous rencontrez un extraterrestre qui n'a jamais entendu parler de votre monde. Que lui dites-vous?
Donc si je trouve un extraterrestre, qu'est-ce que je lui dis? Non, je ne lui dis rien. Je lui chante une chanson typiquement haïtienne qui concerne Haïti. Je ne sais pas si je peux donner un petit phrasé, une petite phrase.
Ah, mais chantez, je suis l'extraterrestre.
Ah, bon. Gade mache ti pays à moi, adieu. Gade mache ti pays moi, adieu. Gade mache Haïti à moi, en moi. Gade mache ti pays à moi, adieu. Pays à, pays à, pays à chaviré. Pays à, pays à, pays à gringolé.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir des sous-titres pour l'extraterrestre?
Là, c'est la misère, c'est la maladie haïtienne. Haïti est la terre malade. C'est la terre malade depuis l'esclavage. Nous avons été malades, enfermés dans le ventre immonde du bateau négrier. Et quand nous avons débarqué sur cette île montagneuse, je veux parler de mes ancêtres. Ils se sont sentis à l'étroit quand ils étaient dans la savane africaine, les narines ouvertes pour humer tout l'univers. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Des vallées trop étroites. Donc c'est encore l'enfermement. On est sorti du ventre de la bête pour retrouver l'enfermement. Et l'enfermement aussi, où il devait travailler dans les plantations de canne, de cacao, de café. Et je crois que même après l'indépendance, l'enfermement a continué. Et c'est pourquoi la terre haïtienne a donné tant de créateurs. Quand on est enfermé quelque part, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement les voyages imaginaires. Donc c'est peut-être l'origine de la créativité haïtienne que je suis en train de découvrir grâce à toi. Et c'est un contraste qu'on trouve dans un pays dit analphabète, illettré, il n'y a pas d'école, ou bien qu'il y a des écoles, ce sont des mauvaises écoles. Et il y a une fournée, une pléthore même, une inflation d'écrivains, de créateurs. C'est à cause de cet enfermement. Cet enfermement a donné comme résultat positif. À côté de la grande misère matérielle, il y a la richesse créative du peuple haïtien.
Oui, parce qu'il y a chez vous une fierté, Franck Etienne, à ne jamais avoir répudié Haïti. C'est un mot qui convient, je pense, hein, puisque
Haïti est ma mère,
Haïti
ma femme.
Est une femme. Vous ne l'avez jamais répudié, vous ne vous êtes jamais exilé.
Jamais. Écoutez, j'aurais pu voyager sous Jean-Claude Duvalier. Mais je craignais de ne pas pouvoir revenir. Et un exil physique pour moi aurait entraîné non seulement la non-existence de cette créativité permanente qui me caractérise, mais aurait entraîné aussi la perte physique de cet homme. Je serais mort. Je suis devenu, vous savez comment Aimé Césaire m'a appelé. Je sais que ça a rendu jaloux quelques-uns de mes amis. Aimé Césaire m'a appelé de son vivant quand j'allais le voir à la mairie de Fort-de-France. Monsieur Haïti. Franck Etienne, c'est Monsieur Haïti. Je suis l'auteur du premier roman du créole haïtien, Desafi. C'est ma lettre de noblesse.
Alors, comment vous la définissez, vous, cette identité haïtienne? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est une langue? Est-ce que c'est une histoire?
C'est une histoire. Et c'est une tragédie d'Eschyle.
Laquelle?
Prométhée, qui a eu comme condamnation les viscères et les entrailles dévorées par l'aigle. Et comme par hasard, nous vivons dans la cour tout près d'un aigle impérial qui s'appelle l'impérialisme américain. Ça ne vient pas de moi. C'est un chef d'État. Je peux citer son nom. C'est Bill Clinton qui eut à dire, naturellement, Haïti est dans le backyard américain. Le backyard, c'est la cour. Et bien avant Bill Clinton, au début du 19e siècle, il y a un chef d'État américain qui a dit Haïti rentre tout naturellement dans le giron de l'influence américaine. Je crois que c'est l'histoire. Vous savez, c'est un pays qui paraît virtuel sous le poids d'une histoire épaisse, ténébreuse, lourde, avec, je dirais, des fulgurances. Il y a eu le bois caïman, la liberté générale. C'est une fulgurance. Napoléon a voulu rétablir l'esclavage et on a eu les guerres de libération qui ont débouché sur la grande fulgurance de 1804. Car c'est la seule révolution qui a dit vraiment liberté, égalité, fraternité, pas d'esclavage. Quand les États-Unis ont proclamé leur indépendance, ils ont maintenu l'esclavage. La grande France révolutionnaire, après 1789, même à l'époque de Robespierre, n'a pas reconnu l'abolition de l'esclavage. Mais la dernière, la plus récente, a été la fulgurance au moment de la chute de Duvalier. On a cru qu'on allait retrouver la lumière. Donc c'est un pays qui nous plonge dans un champ onirique qui est un espace de surréalité.
C'est une tragédie shakespearienne.
Shakespearienne. Mais d'abord, j'ai dit une tragédie grecque.
À part Franck Etienne, j'aimerais bien savoir qui vous aimez.
J'ai comme... J'aime. J'aime pas.
Mais d'abord, je dois te dire, j'aime sans les connotations érotiques. J'aime toutes les femmes. J'ai bien dit, hormis les connotations érotiques.
En tout bien, tout honneur.
Non, il y a 30 ans, peut-être qu'il y aurait eu cette odeur, tu vois, de charnel. Tout cela s'est évaporé avec l'âge. Je suis devenu comme un moine. Ma chambre, si vous voulez que je vous la montre avant votre départ, c'est une chambre monacale.
Vous êtes en méditation ?
En méditation le matin avant de sortir. Et avant de me coucher, je médite et il y a des mantras qui sont placardés sur les murs que je lis, relis 3, 4, 5, 7, 8 fois par jour.
Les clowns.
Je suis un clown. Je suis clown d'abord pour moi-même. Je ne suis pas le clown des autres. Je suis le clone de moi-même. Je joue ma propre comédie, qui est à la fois une tragédie. L'aventure d'un petit blanc qui est sorti d'un bled et qui est devenu parmi les plus grands créateurs, c'est pas Haïti, que la terre est donnée. Je ne mesure pas le travail que j'ai fait à l'aune haïtienne ou à l'aune de la Caraïbe. Je suis un grand créateur parmi les terriens.
Est-ce que c'est à vous de le dire ?
C'est à moi de le dire pour agacer les autres. Et surtout les jaloux.
J'ai vu votre nez rouge là. Vous l'avez remis.
Ah oui.
L'anarchie.
Ah, que je déteste. Car c'est la non-gestion du chaos. Le chaos, je l'ai dit tout à l'heure, est partout. Le chaos commence même au moment où deux gamètes se rencontrent. L'ovule et le spermatozoïde. Eh bien, on va avoir une multiplication cellulaire, anaphase, télophase, métaphase, etc. Et puis on va voir la multiplication cellulaire, on va voir un être humain. C'est déjà la multiplication cellulaire qui donne ces métamorphoses, qui donne d'abord les mutations. Donc le chaos est dans la vie. S'il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de vie.
Même le séisme, le goudou-goudou, comme on dit ici en Haïti, c'est le chaos.
Écoute, ce n'est pas le chaos. Oui, c'est le chaos, mais c'est un chaos d'agencement des plaques terrestres au moment où la Terre sent ses ballonnements. Il y a des borborygmes. On ne peut pas empêcher la Terre de bouger parce que ces plaques ne sont pas collées comme les plaques d'un ballon. Le chaos est nécessaire. Le chaos est constructif. C'est nous qui, avec notre morale, qui disons que, écoutez, un tremblement de terre est mauvais, un cyclone est mauvais, mais c'est la nature qui s'agence elle-même, qui se structure elle-même. C'est l'anarchie au niveau social qui est regrettable et qui n'est pas acceptable. Car l'anarchie est la non-gestion de la vie, c'est la non-gestion du chaos, c'est la non-gestion d'une société, c'est la non-gestion d'une famille, c'est la non-gestion d'une institution, et c'est la non-gestion de soi-même.
Dany Laferrière.
Un écrivain que j'aime pour sa franchise et, je dirais, la grâce, la légèreté de sa parole et qui touche la vérité profonde.
Mmh. Il est un peu plus immortel que vous seulement. Non?
Ah, il fait partie.
Ah. Bon. Tant pis.
Moi, je ne suis pas contre. Il y a des gens qui ont protesté ici. Je ne suis pas contre. Parce que Dany Laferrière ne s'est jamais réclamé de cette forme de patriotisme, je dirais, maladif et morbide. Moi, je suis malade d'Haïti. Dany Laferrière a été ce vadrouilleur, ce terrain qui est allé à Montréal et puis ensuite Miami. Et puis, son rêve, il me l'avait dit un jour, mais la France me reconnaîtra un jour. Là, il a réussi. Non seulement la France a reconnu, il est devenu un immortel à l'intérieur de ce... Enfin, c'est le dôme, c'est ça. C'est le dôme de l'Académie française.
Oui, mais dans votre monologue intérieur, Franck Etienne, vous devez vous dire quand même pourquoi lui et pourquoi pas moi.
Non, Franck Etienne n'a pas sa place dans aucune académie.
Quel est l'objet le plus précieux dont vous êtes en possession, Franck Etienne ?
Les fétiches que je porte. Là, il y a un, c'est la France qui me l'a donné.
Alors, faut décrire ce que c'est, ce médaillon magnifique que je vous volerai bien pendant votre sommeil. Hein.
Oui, c'est l'ordre, et je suis nommé et commandeur de l'ordre des arts et des lettres de la République française.
Je croyais que c'était l'Algérie ou un pays du Maghreb qui vous avait donné
non,
ça,
non, non,
ce
non,
médaillon.
Non, c'est la France, mon ancienne maîtresse. Ensuite, j'ai un tas de crucifix. Bon, j'ai dit de croix, parce que trop souvent, les gens oublient le symbole de la croix. Le symbole de la croix n'est pas forcément ni exclusivement lié à la tragédie ou à la mythologie christique. C'est vrai, le Christ a été crucifié. Moi, je parle de la croix comme un symbole de la rencontre de tous les pôles. C'est la multipolarité qui m'interpelle dans le symbole de la croix. J'ai 3 ou 4 croix que je porte lorsque je suis sur le plateau pour jouer. tous mes bataclans, tous mes sortilèges sont là. Je suis un mystique. Je crois dans les forces occultes.
Oui, il faudrait que je vive un peu avec vous pour partager ce genre d'expérience de l'invisible. On ne va pas avoir le temps, je pense. Mais...
C'est une quête. C'est une vraie quête interminable.
Quand je regarde votre carrière, donc vous êtes, si je résume, carrière protéiforme, hein, vous êtes comédien, vous êtes chanteur, vous êtes dramaturge, poète, romancier. Finalement, vous êtes une voix, un corps, une oreille, un œil, une langue. Est-ce que cette culture des cinq sens comme ça est intrinsèquement haïtienne?
Oui, je le crois. L'haïtien est protéiforme. Je suis un miraculé.
Mais pas seulement, j'ai envie de vous dire, écoutez, je suis là depuis six jours en Haïti. Attendez, je finis ma phrase. On rencontre des haïtiens lambda, comme on dit, l'haïtien de la rue, qui peut être à la fois garagiste et peintre, chauffeur de camion et poète. Ça n'existe nulle part ailleurs sur la Terre, ça.
Nous avons vécu et nous vivons encore dans une sorte d'enfermement. Nous sommes à la recherche de la lumière. Et c'est cette quête de lumière, faute de n'avoir pas réussi ce qu'on appelle un projet, réussi un projet de fondation nationale. Car Haïti, là, tu me coinces vraiment, tu me pousses à dire des choses assez graves. Haïti n'est pas une nation. Nous avons raté le projet national parce que, même au niveau de la citoyenneté, les trois quarts du pays ne jouissent pas des privilèges dus à un citoyen. Haïti est une terre anormale. Et de cette anomalie, il y a les racines de la créativité haïtienne. Et ensuite, il y a une matrice qui est incontournable, c'est la matrice vaudou. Cette dimension spirituelle à l'intérieur du vaudou, on la retrouve même chez ceux-là qui ne se disent pas vaudouisants et qui renieraient même le vaudou. L'haïtien a une sensibilité vaudou. Tout haïtien mystique. Le papillon qui passe n'est pas perçu comme un papillon. C'est une âme qui passe. C'est peut-être la grand-mère qui passe. C'est le grand-père qui passe. Rien n'est interprété au premier degré par l'haïtien. Les autres, même quand ils sont dans le mimétisme à l'occidental, ils sont encore dans le creuset vaudou. Mais même ceux-là qui ne sont pas conscients de ça, ils ont une respiration haïtienne qui est une respiration vaudou.
Passer un fond, manager à côté. Passer un fond, bon nager au bon plongeur. Passer un fond, bon nageur au bon plongeur. Passer un fond, si pas que mon Dieu point ta peine. Vierge miracle soto qui potem soudo.
Beaucoup d'expérience symbolise la première vraie tentative de la musique racine, les autres sont venus après. C'est la musique enracinée dans la matrice haïtienne, qui est le vaudou.
Sous l'homme qu'on a pu chavirer, Si balien mon Dieu, moi t'a peneye. Si pas qui laisse au moi t'a fait plonger.
Franck Etienne accueillant en sol majeur en Haïti, c'est fini. PS, j'ai bien aimé que Franck Etienne me dise tu pendant l'interview. Et puis j'ai bien aimé entendre sa spirale littéraire, notamment dans la métamorphose de l'oiseau schizophone, dont l'intégrale est publiée aux éditions Vendailleurs. Merci à l'Institut français de Port-au-Prince et puis bon vent à Bookman Experience et au Trésor national haïtien. En sol majeur, avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste exceptionnellement toute cette semaine en lieu et place de Radio Foot International à 21h10, temps universel, merci Père Noël. Donc Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec le compositeur Zad Moultaka. À demain.